Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je suis ravie d'être ici au Canada et puis très honorée d'ouvrir le bal en quelque sorte. Ravie aussi que mon livre ait suscité dès sa parution l'intérêt de l'UQAM puisque j'ai été sollicitée, je crois, une semaine après sa sortie. Et donc, en fait, l'hypothèse de ce livre, c'est que le mythe viriliste dont vous venez de parler ne constitue pas seulement une oppression de l'homme sur la femme. Ça, c'est une thématique bien connue qu'il a servi à justifier, théoriser l'administration, à administrer la relégation domestique des femmes et leur minoration historique. Ça, ce sont des choses qui sont relativement bien connues, mais que ce mythe viriliste constitue aussi une forme de piège pour l'homme lui-même. C'est pour ça que le sous-titre du livre, c'est donc « Le mythe de la virilité, un piège pour les deux sexes ». Parce qu'en effet, quel est le postulat de base de ce mythe viriliste? C'est rien d'autre que l'idée de hiérarchie des sexes. Donc l'idée de la supériorité essentielle, ontologique, du masculin sur le féminin. Or, ce qui est pernicieux, ce qui est de nature aussi à piéger l'homme lui-même, c'est que cette supériorité masculine n'est pas seulement fondée sur l'idée de puissance et de force, mais également sur le concept de maîtrise. Et je voudrais montrer que l'articulation des concepts de maîtrise et de puissance ne vont pas du tout de soi, et que là réside une partie du problème masculin. Alors, petit rappel, à partir d'Aristote, on sait que toute la médecine antique puis médiévale, et ça va laisser des traces jusque dans la médecine du 19e, va théoriser l'idée de la hiérarchie des fluides, donc une supériorité ontologique du masculin qui serait ancrée dans la nature, dans une différence naturelle. Et donc cette idée de hiérarchie des fluides signifie que la femme, en fait, a un rapport passif à ses fluides, notamment elle perd son sang dans ses menstruations, mais dans cette perte de sang, elle ne sait jamais quand les règles arrivent, combien de temps elles durent, si elles vont faire mal, etc. Et puis après, pendant les grossesses, elle ne sait pas quand les règles s'arrêtent, et puis quand elles reprennent au retour de couche, et puis quand elles s'arrêtent enfin à la ménopause. Bref, la femme est comme en quelque sorte soumise à ses propres flux, donc on en déduit que si elle est soumise à elle-même, elle ne peut que se soumettre, qu'elle est donc naturellement destinée à se soumettre. Elle ne se gouverne pas, donc elle ne peut pas gouverner. Et puis, par opposition, on a une figure masculine qui, elle, domine, maîtrise. L'homme, lui, maîtrise ses fluides. Il a un rapport actif à ses fluides. Alors d'abord, le sang. Eh bien, la femme donc ne maîtrise pas son sang. Elle n'en contrôle, comme je l'ai dit, ni le flux, ni la durée, ni rien. Elle est soumise. L'homme, lui, au contraire, il ne perd pas son sang. Aristote nous dit qu'il le cuit, mais bon, n'allons pas jusque-là. En tout cas, il le verse à la guerre, il donne son sang, il verse le sang. Autrement dit, lui, il a un sang glorieux, là où la femme a un sang impur. Et surtout, il maîtrise. Il nous dit, Aristote nous dit aussi, l'homme maîtrise ses émissions séminales, tandis que la femme, elle est soumise, comme je l'ai dit, mais pas seulement à son sang. Elle ne maîtrise ni ses larmes, ni ses émotions, ni ses désirs. Et il faut se souvenir que, à l'origine de la civilisation, c'est la femme qui est pensée comme ayant des désirs sexuels inextinguibles, et non pas l'homme. Donc c'est l'idée que la prédation sexuelle aurait originellement, c'est la femme. C'est la femme qui est décrite dans la mythologie, qu'on prenne Pandore, Cassandre, Ève, Lilith. C'est toujours la femme qui est coupable, souvent décrite, comme on le verra avec les sorcières, comme une fornicatrice démoniaque, une prédatrice insatiable, diabolique. Et donc ce qui justifie aussi la peur des femmes et la terreur même des femmes, cette idée d'une femme funeste et dangereuse. Donc par opposition à cette femme, il faut bien comprendre que donc, les deux figures sont polairement, enfin dialectiquement opposées. L'homme, lui, c'est celui qui dompte, qui décide, qui domine, qui gouverne, alors que la femme, elle, est soumise à elle-même. Mais ce devoir de maîtrise a évidemment des effets pervers pour l'homme, comme nous allons le voir. Et mon hypothèse, c'est que cette injonction à la puissance et à la maîtrise traduit évidemment surtout une peur de l'impuissance, voire une haine de l'impuissance. Et on peut même se demander si, au fond, des conduites les plus agressivement viriles, il n'y aurait pas davantage que la passion de la victoire, qu'elle soit guerrière, sportive, militaire, évidemment sexuelle, il n'y aurait pas d'abord et avant tout la hantise primordiale de la défaite. Et ce qui expliquerait que la virilité, comme vous l'avez dit, Véronique, est une vertu vulnérable et fragile, et toujours besoin de se régénérer en ressuscitant les modèles du chasseur, du chevalier, du guerrier, parfois de manière caricaturale, comme le fascisme qui va voir dans l'hyperbole virile du surhomme la seule réponse possible à la dégénérescence. Alors évidemment, ce sujet puissance et impuissance est immense et j'ai assez peu de temps pour le traiter. Donc évidemment, j'aurais pu l'analyser sous beaucoup d'angles. Notamment, il y a des aspects qui ont beaucoup retenu mon intérêt dans mon livre, sur lesquels je n'ai pas le temps de revenir ici, comme cette idée de la belle mort, de la mort héroïque, de la gloire, de l'honneur, qui constituent le fond même du mythe viriliste. Mais je crois qu'on aura beaucoup de conférences passionnantes qui vont revenir là-dessus. Alors j'ai choisi de me focaliser sur l'aspect purement sexuel de la question, bien que ce ne soit pas facile, c'est plus facile à écrire qu'à dire, surtout que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'hommes dans la salle, donc c'est toujours un peu difficile de parler du rapport de l'homme à son phallus devant des hommes. Mais bon, on va être courageuse. Et on va s'atteler à ce qu'on a dit qu'on allait traiter. Voilà. Et puis, pourquoi l'aspect purement sexuel ? Parce que je pense que c'est un aspect qui était extrêmement éclairant du rapport de l'homme à sa virilité. Car la puissance phallique et le pouvoir, qu'ils soient politiques, guerriers, économiques, sont étroitement liés, imbriqués, puisqu'on peut même dire que l'un est l'indice de l'autre. C'est-à-dire que plus un homme a de conquêtes sexuelles, dans le mythe viriliste évidemment, hein, plus on est considéré comme conquérant, donc comme valeureux, donc comme viril, donc plus on est un vrai homme. Et moi, c'est cette notion de vrai homme qui m'a énormément intéressée. Alors déjà, ce lien entre la puissance militaire et la puissance phallique, eh bien, il suffit de prendre le nombre d'expressions empruntées au lexique guerrier pour qualifier le pénis, pour s'en convaincre, hein, la lance, la pique, la matraque, le fusil, le pistolet, la hache, l'arbalète, le braquemar, le gourdin, l'épée, la torpille, le bazooka, et je suis sûre que les Canadiens en ont encore d'autres des plus imagés. Donc l'analogie entre arme et phallus, elle est assez évidente. Mais la difficulté vient du fait que c'est une arme qui peut lâcher son porteur, qui peut lui désobéir, qui peut même se retourner contre lui, puisque chacun sait ici, chacune et chacun, on a fait l'expérience, l'homme peut potentiellement tout maîtriser, sauf cet engin capricieux qui habite son pantalon. Alors, comment l'homme, a fortiori l'honnête homme occidental, promis au rêve cartésien de se rendre comme maître et possesseur de la nature, comment cet homme-là, qui domine, qui maîtrise, peut-il accepter que son propre corps puisse ne pas lui répondre ? On se demande même si l'organe sexuel jouit d'une vie propre, parfaitement autonome. En tout cas, Léonard de Vinci, dans ses carnets, s'était vraiment posé la question. Je vous lis juste cet extrait de La Verge. « Parfois, elle possède une intelligence en propre. En dépit de la volonté qui désire la stimuler, elle s'obstine et agit à sa guise, se mouvant parfois sans l'autorisation de l'homme ou même à son insu. Soit qu'il dorme, soit à l'état de veille, elle ne suit que son impulsion. Il semble donc que cet être a souvent une vie et une intelligence distinctes de l'homme. » Alors évidemment, ça met en difficulté cet idéal de maîtrise. Et en fait, je disais, c'est l'articulation entre les deux qui est problématique. Comment maîtriser la puissance et comment venir à bout de l'impuissance? Comment articuler ces deux injonctions à la maîtrise et à la puissance? Alors, comme nous allons le voir, l'histoire de la virilité est marquée par cette angoisse terrible, irrationnelle de l'impuissance. Mais comment aborder un tel sujet? Évidemment, je ne vais pas l'aborder d'un point de vue ni psychologique, ni individuelle, mais historique, théologique, littéraire. En fait, en réalité, ce qui est intéressant, c'est d'observer la production des discours sur la sexualité masculine en se souvenant que ce mythe viriliste est véritablement un mythe, puisque il fait système, si vous voulez, et sa cohérence vient du fait qu'il a conjugué, dès les débuts de sa conceptualisation dans l'Antiquité gréco-romaine, toutes les disciplines et tous les arguments d'autorité, que ce soit la mythologie, on vient de le voir avec ces figures-là, mais aussi avec les figures héroïques, Achille, Hector, etc. La théologie, je vais en parler aussi plus aujourd'hui, la philosophie, on l'a vu avec Aristote, la biologie, la médecine, évidemment le droit, puisque tout ça s'est entériné dans des textes de loi. Donc en fait, ça fait système. Et aborder cette question, c'est aborder la question sous l'angle de ce que Michel Foucault a appelé les dispositifs de sexualité dans la volonté de savoir, c'est-à-dire l'ensemble des discours, des normes, des interdits, des représentations et des mises en scène qui contribuent à faire de la sexualité bien davantage qu'une simple fonction physiologique, à en faire une construction culturelle. Donc s'il n'existe rien en apparence de plus intime que l'usage que chacun fait de ses organes sexuels, eh bien, en réalité, il n'y a rien de plus codifié, rien de plus normalisé que cet usage. Alors, pour être jugé viril, un homme doit impérativement satisfaire à un certain nombre d'exigences en termes sexuels. Et je vais me baser pour construire cet exposé sur un triptyque qui est devenu canonique et qui avait été formulé, énoncé par, en 1633, par un dénommé Vincent Tagereau, qui était avocat général au Parlement de Paris, et qui a dit « La virilité, c'est dresser, entrer, mouiller ». Trois verbes qui sont très explicites, auxquels je vais en ajouter deux autres. « Prouver », avant même de dresser, et « crâner », c'est-à-dire « fanfaronner » une fois qu'on a mouillé. C'est-à-dire qu'en réalité, la virilité, c'est donc « prouver, dresser, entrer, mouiller, crâner », c'est-à-dire la preuve, l'érection, l'intromission, l'émission et la vantardise. Alors, je répète évidemment que ça, il ne s'agit pas de parler des hommes en général, mais de la construction d'un idéal normatif de virilité. Je précise ça parce qu'il y a une grande majorité d'hommes ici. Vous avez bien fait de distinguer masculinité et virilité. Dans mon esprit, c'est très clair. La masculinité, c'est le fait biologique d'être un homme. Il y a autant de masculinité qu'il y a de façon d'habiter le masculin, si vous voulez. La virilité, c'est l'idéal normatif, prescriptif. Et c'est évidemment à ça que je fais référence et pas à la sexualité individuelle des uns et des autres. Alors, commençons par la preuve. Prouver. L'injonction à la preuve sexuelle, c'est donc le premier impératif. Il s'agit de prouver que l'on présente des organes sexuels en bonne et due forme. Et dans cette injonction à la preuve, eh bien, il y a une place toute particulière qui est accordée aux testicules, donc dont le mot dérive de testis, qui signifie témoin. Et donc, les testicules attestent la virilité de leur porteur. Donc, leur présence va témoigner objectivement, indubitablement, indiscutablement, qu'on a bien là affaire à un homme. Et pendant des siècles, je rappelle que chez les Égyptiens, les Hébreux, les Sémites, les Arabes, les Romains, les hommes s'empoignaient par les testicules lorsqu'ils prêtaient serment. Donc il y avait une certaine sorte de serment génital, et rappelons quand même, ce n'est pas anodin, que les premières civilisations avaient fait donc des gonades mâles le fondement même du droit coutumier. Et puis Galien, qui est le grand médecin de l'Antiquité gréco-romaine, après Hippocrate, lui va dire « les testicules sont la partie la plus noble du corps masculin et même, dit-il, elles sont par-dessus le cœur ». Donc depuis toujours, ce qu'on appelle les bourses sont le symbole de la puissance créatrice et elles sont considérées comme un marqueur viril extraordinairement précieux, ce que vont traduire des expressions argotiques beaucoup plus tardives comme l'expression de « bijoux de famille », qui traduit bien l'idée qu'on a affaire à quelque chose de précieux. Rappelons aussi qu'en France, sous la royauté, la naissance du dauphin était l'occasion pour toutes les dames de la cour de venir rendre un hommage admiratif à la splendeur de ses bourses, qui était la transmission, symbole pardon, de la transmission du sang royal. A contrario, un homme qui s'en trouvait dépourvu se voyait traité d'eunuque. Et donc, il faut savoir que les eunuques étaient traités avec le plus grand mépris, non seulement par les docteurs, par les juristes, par le public et bien sûr par l'Église, qui était fidèle à la sévérité du Deutéronome 23.1, qui nous dit « Celui qui est eunuque, soit pour avoir été froissé, soit pour avoir été taillé, n'entrera pas dans la congrégation de l'Éternel. » Et il faut se souvenir que ne pas posséder de bourse pendant des siècles, c'était s'exposer au bannissement, c'était s'exposer à une vie de paria, parce qu'on ne pouvait pas faire la preuve formelle de sa virilité. Alors, il y a une référence canonique là-dessus encore, c'est l'historien français Charles Ancillon qui a écrit un traité des eunuques qui date de 1707, dans lequel il dresse un portrait absolument accablant de cet infra-homme, de ce sous-homme. Je le cite, « C'est un bœuf dont l'apparence répugne, sa voix est grêle et languissante, ses manières efféminées, il n'a aucun courage ni hardiesse, chétif et méprisable dans son corps, il vaut encore moins du côté de l'esprit, gens abominables et sans honneur, ils sont jaloux, féroces, gourmands, avares, inconstants, soupçonneux, furieux, insatiables. » Donc, même si l'homme possède un pénis fonctionnel, s'il n'a pas, excusez-moi, je vais être vulgaire, mais c'est comme ça que ça se dit, et s'il n'a pas de couilles, il n'est pas considéré comme viril. Parce que ce sont elles qui, nous dit-on, nous dit Charles Ancillon, vivifient le corps, ce sont elles qui lui donnent sa chaleur naturelle. Et en plus, il faut qu'elles se voient. C'est ce qui a perdu le pauvre baron d'Argenton, dont l'histoire est racontée dans un livre passionnant qui s'appelle « Le tribunal de l'impuissance » de l'historien Pierre Darmon. Et il nous raconte l'histoire de ce pauvre baron d'Argenton qui épouse la bien nommée Madeleine de la Châtre. Je ne l'invente pas, parce que sachant que châtré, c'est castré à l'époque, en ancien français. Et donc, l'histoire est rocambolesque, puisque donc... Madeleine de la Châtre avait bien été déflorée le soir de la nuit de noces, le drap avait bel et bien été souillé. Le mariage a donc été consommé, mais elle en demande l'annulation au motif que son époux, dit-elle, n'a pas de témoin apparent et qu'il est donc un impuissant. Et donc là, ça relève du juge ecclésiastique de Sens qui ordonne l'inspection des parties génitales du baron, qui révèle effectivement qu'il n'a pas de témoin extérieurement. Et donc, le mariage est déclaré nul, ce qui était à l'époque grave, parce qu'en plus, il lui doit des dommages et intérêts, puisqu'elle est dévalorisée sur le marché matrimonial. Donc, c'est une affaire assez grave, dont il ne se remet pas. Il fait appel, ça va jusqu'au primat de Lyon, qui confirme la sentence. Il remonte jusqu'au pape, qui lui-même confirme, et il proteste, « Mais je ne suis point châtré, j'ai de la barbe au menton, ma voix n'est point grêle, je suis fort, je suis viril, rien à faire. Personne ne veut admettre que ses testicules soient, comme il le dit, cachés au-dedans. » Et la sentence est confirmée. Or, l'histoire a voulu que 3 ans après, une autopsie est réalisée sur son corps, et là, on révèle qu'il avait effectivement des témoins cachés au-dedans, comme on dit. Et là, il a été déclaré puissant à titre posthume. C'est assez amusant. Vous voyez jusqu'où ça pouvait aller. Alors, évidemment, si les bourses sont capitales, l'élément, évidemment, le plus prestigieux de l'anatomie mâle, celui dont il est censé s'enorgueillir le plus, c'est évidemment le pénis. Et là, il faut rappeler que dans la littérature, eh bien, on voit enfant, chacun l'invite à en tirer fierté, à commencer par les mères et les nourrices d'autrefois, comme nous le raconte Rabelais, qui dit que Gargantua, dès qu'il, je cite, « commença à explorer sa brague », c'est-à-dire sa braguette, Gargantua faisait la joie de ses nourrices et elle frottait l'objet entre leurs mains comme un rouleau à pâtisserie, je cite, et quand ils commençaient à dresser l'oreille, elles éclataient de rire. Et il faut lire là-dessus le chapitre « Enfance du deuxième sexe » de Simone de Beauvoir qui s'inspire des analyses de Freud et Adler et qui montre comment on insuffle aux garçonnets l'orgueil de sa virilité en incarnant cette virilité qui est une notion abstraite dans son pénis, qui lui est concret. Donc jusqu'à, elle nous dit, jusqu'à l'âge tendre où on va lui couper ses premières boucles et où donc à l'époque où ça se passe, on va cesser de l'habiller de robes et de dentelles comme sa petite sœur ou sa grande sœur, l'enfant, jusqu'à cet âge-là, l'enfant n'éprouve pas particulièrement, dit-elle, de fierté à l'égard de son petit sexe indolent. Je cite tout ça. Mais l'attitude de son entourage va bientôt convaincre le garçonnet de la haute valeur de son petit sexe indolent, en lui faisant comprendre que les efforts qui lui sont désormais imposés pour se démarquer de ses sœurs, c'est-à-dire un homme ne demande pas qu'on l'embrasse, un homme ne se regarde pas dans les glaces, un homme ne pleure pas, etc., sont justifiés par sa supériorité, c'est-à-dire il a quelque chose qu'elles n'ont pas, et c'est pour cette raison qu'on a sur lui de plus grands desseins, de plus grands objectifs. Je vous la lis parce que c'est très éclairant. Loin que le pénis se découvre comme un privilège immédiat, d'où le garçon tirerait un sentiment de supériorité, sa valorisation apparaît au contraire comme une compensation inventée par les adultes et ardemment acceptée par l'enfant aux duretés du dernier sevrage. Par là, il est défendu contre le regret de ne plus être un nourrisson, de ne pas être une fille. Et la phrase importante est là. Par la suite, il incarnera dans son sexe sa transcendance et sa souveraineté orgueilleuse. Parce qu'elle nous dit, cet organe qui se laisse voir et saisir s'offre naturellement à l'admiration de chacun et de chacune, à commencer par les mères et les nourrices. À la différence des parties génitales de la fillette, qui elles, donc de ses sœurs, qui sont non visibles, secrètes et donc taboues et honteuses. Donc, là où le petit pénis du garçon est déjà pour lui un symbole de puissance et d'autonomie, les mystérieuses parties intimes de la fillette lui sont impénétrables et génèrent chez elle un sentiment confus de honte et d'angoisse de l'inconnu. Donc, elle nous dit, tandis que le garçon est encouragé à regarder sa verge comme, je cite, « un alter ego d'habitude plus rusé, plus intelligent et plus adroit que l'individu », la fillette, au contraire, est amenée à considérer avec inquiétude ses intérieurs qui n'inspirent ni révérence ni tendresse aux mères et aux nourrices. Je la cite, « elle n'attire pas son attention sur cet organe secret dont on ne voit que l'enveloppe qui ne se laisse pas empoigner. En un sens, elle n'a pas de sexe et elle ne peut s'incarner dans aucune partie d'elle-même à la différence de son frère. » Il y a aussi des analyses dont je vous fais grâce sur la façon dont le garçonnet maîtrise le jet d'urine alors que la petite fille doit se déshabiller, se cacher derrière un arbre, etc. Ce qui est vrai contribue à cette impression, à cette inégalité dans l'enfance. Alors, évidemment, il en tire fierté, mais évidemment aussi angoisse. C'est une source d'angoisse, de terrible angoisse. Pourquoi ? Eh bien, Rousseau nous l'a très bien dit, l'angoisse et le malheur des hommes vient de la comparaison. Or, la comparaison avec les autres est très, très anxiogène. Et donc, la question, c'est mon sexe a-t-il la bonne taille ? Et donc, cette obsession de la jauge, on va la voir historiquement, elle est absolument majeure, mais elle est très paradoxale parce que depuis les origines de la civilisation, on va stigmatiser tout autant les toutes petites verges que les très grosses. Moyennant quoi, qu'est-ce qu'un homme ? On n'est jamais viril. Ça, c'est vraiment symptomatique, je pense, de beaucoup de questions. Où est la virilité ? Elle n'est ni dans le petit sexe, ni dans le gros sexe. Donnons quelques exemples de ce rapport très inquiet aux mensurations. Ben d'abord, dans l'Antiquité grecque, on sait que ça relève à la fois de l'éthique et de l'esthétique. On voit des statues de couroïs et on ne peut pas ne pas être frappé par le contraste entre la largesse des épaules et la petitesse du sexe. On sait que pour les Grecs avaient fait de la perfection des proportions physiques, la quintessence de la virilité, un corps qui est sans cesse exalté, qui s'exhibe nu au gymnase, qui est représenté nu, etc. Et pourtant, la verge est minuscule en proportion des épaules, comme celle des enfants, parce que ça signale la maîtrise, voire la bonne éducation. Donc, Aristophane va nous dire dans les Nuées que pour être digne d'être admiré et désiré, le jeune homme idéal, il a, dit-il, les joues imberbes, la poitrine robuste, le teint vermeil, les épaules larges, le discours bref, la fesse rebondie et la verge menue. Et à contrario, ceux qui ont un gros phallus évoquent l'animalité et ils sont caricaturés dans les scènes burlesques, volontiers pornographiques. Donc il n'y a que les satyres, des comédies, les barbares ou les esclaves, donc les sous-hommes, qui sont ityphaliques, c'est-à-dire dotés d'un affligeant priapisme. L'homme vertueux, lui, se distingue par la modestie de son sexe, parce que ça suppose qu'il le maîtrise, qu'il n'en subit pas les appels impétueux, qu'il domine, qu'il gouverne. On voit aussi que cette méfiance à l'égard des gros sexes, des sexes protubérants, se retrouve chez les Romains qui en font le comble de l'obscénité. Si on prend le petit dieu Priape, qui souffre d'une érection douloureusement continue, eh bien, il passe pour un enfant monstrueux. Il est même rejeté par sa propre mère Aphrodite, en raison de son membre terribilis, comme disent les Romains, et de sa laideur, parce qu'il est figé dans cette contraction indéfinie de ce sexe tumescent qui ne parvient jamais à la détumescence, et donc il incarne la pathologie du désir. Et il faut se souvenir, j'aurai l'occasion d'y revenir, que les Romains considèrent tout excès comme dégradant. Donc ceux qui se livrent à la débauche sont des âmes sales, corrompues, tout entières, prisonniers de leur sexe. Et puis on va voir que ce mépris à l'égard des porteurs de gros sexe va prendre aussi une coloration souvent explicitement raciste. Les colons européens vont attribuer aux indigènes un membre monstrueux, dont les... là j'ai un trou de mémoire, mais il y a un livre magnifique qui vient de... Mais j'ai un trou de mémoire sur les auteurs, qui vient de paraître sur le sexe aux colonies, et je lis quelques... Merci. Et j'ai lu des extraits dans la presse qui reviennent sur cette fascination pour le membre monstrueux du noir, dont on pense que qu'il signale un appétit sexuel tyrannique et qu'il conduit à toutes les perversions. Donc on les a accusés de polygamie, de zoophilie, de nécrophilie, de sodomie, de viol, etc. Donc l'hypertrophie de l'organe des nègres, entre guillemets, des arabes, des ouvriers et des domestiques aussi, est reconnu comme l'indice majeur de leur bestialité. Donc, tous les inférieurs ont un énorme sexe. Oui, le problème, c'est que ils ont aussi tous les inférieurs sont aussi décrits avec des petits sexes, tout petits sexes, et donc à la même époque où on stigmatise notamment au 19e le sexe hypertrophié des Noirs, eh bien, on va stigmatiser aussi le sexe minuscule et hypotrophié des délinquants de la métropole, dont on dit que les prisonniers ont un sexe atrophié. Tout ça, je l'ai tiré de l'histoire de la virilité de Corbin, Courtine et Vigarello, qui dit que donc ils sont affligés d'un sexe atrophié, ridiculement court, signe, je cite, d'une dégénérescence criminogène. Donc, comment expliquer qu'on a à la fois une fascination, une répulsion pour les petits sexes avec une fascination pour les sexes énormes, dont va témoigner la littérature érotique européenne avec le fantasme du sexe faramineux, tout ce fatras de superbes vites, de splendides bâtons de la littérature érotique puis pornographique. Donc comment comprendre cette contradiction entre la prédilection pour les petits organes et la fascination pour les énormes? Eh bien, il suffit peut-être de rappeler d'abord que les humains ont une fâcheuse propension à dénigrer ce qu'ils jalousent en secret, mais c'est aussi probablement parce que le sexe de l'homme n'a pas une taille constante et que son agrandissement est lié à un processus qui implique la puissance et la maîtrise, puisqu'il est lié au processus de l'érection. Or, évidemment, en réalité, ce que l'homme redoute par-dessus tout, c'est l'impuissance qui va évidemment se manifester au premier chef par la désolante obstination du sexe à rester petit. Alors, c'est évidemment, ça m'amène à mon deuxième point, s'il est impératif pour l'homme donc de prouver qu'il est convenablement équipé, eh bien, il va surtout maintenant falloir prouver, toujours dans les discours, que cet appareillage fonctionne, autrement dit, qu'il est capable de dresser. Donc, j'en arrive à mon deuxième point, dresser, le devoir d'érection. Et là, il faut rappeler quand même que si les hommes s'était contenté d'avoir un pénis, c'est-à-dire un sexe biologique, eh ben, il se serait peut-être accommodé des dysfonctionnements passagers, occasionnels, de cet organe, puisque tous nos organes fonctionnent de manière imparfaite. Donc on aurait pu imaginer que ça ne soit pas plus grave qu'un petit rhume ou qu'une mauvaise digestion. Le problème, c'est qu'ils ont fait du pénis un phallus, c'est-à-dire un sexe symbole de puissance, et ils ont fait de l'érection la manifestation, l'expression la plus manifeste de cette puissance. Et donc, l'idéologie de la suprématie phallique va transformer cet organe le fiasco en déroute humiliante, en cataclysme symbolique, en blessure narcissique, en indignité, si bien qu'on peut parler d'un véritable complexe d'impuissance. L'individu qui est incapable de maîtrise, qui est inapte à la possession, il va carrément déchoir de son statut d'homme et vivre un effondrement de tout son être. Et donc, ce qui est important, c'est de voir ici que s'il est question de honte, c'est qu'il y a donc un devoir d'érection dont dépend la virilité du mâle. Elle dépend donc de cette capacité à remplir son devoir, à se montrer capable. Et là, encore une fois, c'est une analogie avec le pouvoir dans son ensemble. Il faut qu'il se montre capable d'expansion, de dilatation, d'augmentation, d'agrandissement. Et donc à tel point que on peut vraiment dire que l'érection, c'est l'épreuve de la vérité, à tel point qu'on peut dire, et j'avais trouvé cette expression dans la Fabrique des garçons, je crois, de Nadine Folconnet, je bande, donc je suis. Et en Occident, c'est de Rome que va nous venir cette terreur du sexe qui ne dresse pas, et comme l'a montré Paul Venn, effectivement, c'est à Rome qu'on va voir que les droits de la conscience publique sur la conduite individuelle sont très marqués. Donc il y a une importance très forte donnée au contrôle social sur la vie sexuelle des citoyens. Donc c'est un univers de sociabilité permanente où sur le forum tout le monde s'observe, se juge, etc. Et il faut évidemment que chacun soit conforme aux normes définies par l'ensemble. Et il faut rappeler la virulence avec laquelle certains comportements sont socialement réprouvés, honnis, conspués. Ils ont toutes sortes d'insultes très crues, très obscènes. La rumeur fait et défait les réputations, etc. Et donc, il y a véritablement une obsession à l'idée d'être jugé impotent. Et là, il faut lire le livre de Pascal Quignard qui s'appelle « Le sexe et l'effroi » où il décrit bien, donc, et je le cite ici, « Un homme, homo, n'est homme vir, que quand il est en érection. » Et il nous parle de la terreur liée à ce qu'ils appelaient l'impotentia, soudaine, involontaire, ensorcelée, considérée comme démoniaque par les Romains. Et il y a une très belle description dans « Les amours d'Ovide », très belle, plutôt tragique, description du fiasco dans le troisième livre des Amours. Je vous la lis. « Je l'ai tenu entre mes bras en vain. J'étais inerte, Languidus. Je gisais comme un fardeau sur le lit. J'avais du désir, elle avait du désir, mais je n'ai pu brandir mon sexe. Mes reins étaient morts, mon membre engourdi, comme frotté de la froide ciguë, ne m'a pas secondé. Je gisais inerte, apparence pure, poids inutile, à mi-chemin entre le corps d'un homme et une ombre des enfers. À tout cela s'est ajoutée la honte, je le disais tout à l'heure, la honte a amplifié la défaillance, la vie avec la virilité s'était détachée de moi. » Donc, vous voyez, cette honte. Et Pascal Quignard va nous rappeler que les Romains vont nommer fascinus, le phallos des Grecs, un mot dont dérive aussi fascination, qui évoque donc la pétrification devant une angoisse insurmontable, qui donne aussi le mot fascisme, donc qui relève de la même esthétique de l'effroi. Et donc, Pascal Quignard nous rappelle aussi que pour les Romains, ce qui rend le fascinus aussi terrifiant, c'est pas seulement sa propension à ne parfois pas obéir à la volonté de son porteur, mais c'est aussi le fait qu'il est voué à se rabougrir après l'acte. Autrement dit, il nous dit, le fascinus s'engloutit dans le sexe féminin ou pas féminin d'ailleurs, et il en ressort minuscule. Et donc c'est l'une des raisons qui explique donc les vieilles élucubrations relatives à la dangerosité du vagin, donc notamment les mythologies du vagin denté et la peur de la castration. Qu'est-ce que c'est que cette grotte pour qu'on ait envie d'y aller, mais pour qu'on en ressorte tout petit et tout affaibli. Il faut aussi rappeler ce que fait Pascal Quignard, l'assimilation du phallus à un dieu. Parce que cette énergie autonome du sexe qui le pousse à jaillir soudain, à croître comme un végétal, à faner et puis à se regonfler de sève, le tout par sa seule dynamique interne, puisqu'on voit que la maîtrise est difficile, ne peut être que l'œuvre du divin. Donc il faut rappeler que les gardiennes, les Vestales, gardiennes du temple et fétiches du peuple romain, elles vénéraient un sexe d'homme érigé, hein, et que les Romains étaient très superstitieux, ils avaient toutes sortes d'amulettes, de colliers, de pendeloques de forme priapique, ils mangeaient des gâteaux phalliques pendant les fêtes pour implorer les dieux de leur donner la vigueur, et il n'y avait pas de pire insulte que se faire traiter de mollis, c'est-à-dire de mou, parce que, évidemment, ici, l'érection traduit bien plus que la seule énergie sexuelle, elle traduit et elle révèle la noblesse morale de l'homme viril. Et donc, cette dimension morale très importante, elle va devenir même spirituelle avec la théologie chrétienne, puisqu'à partir d'Augustin, la défaillance va être considérée comme une punition divine. Je me réfère à la Cité de Dieu, où donc l'évêque Augustin d'Hippone, dont on sait à quel point il est influent sur la théologie chrétienne, eh bien, il va répondre à cette question qui agite les humains depuis le début de l'humanité. Pourquoi est-ce si difficile de gouverner son phallus? Eh bien, Augustin, lui, il a la réponse. Il dit, eh bien, les caprices de l'érection sont tout simplement la conséquence de la chute. Adam a refusé d'obéir à Dieu, eh bien, désormais, sa punition, c'est que son sexe refusera de lui obéir. Donc, à partir de maintenant, il nous dit, dans le Jardin d'Éden, je le cite, la concupiscence ne faisait pas mouvoir ses membres contre le consentement de la volonté. Il ressentait à son gré l'émotion charnelle, mais à partir et après le péché originel, tantôt il sera importuné malgré lui par les turpitudes de son membre, tantôt à l'inverse, il restera glacé tandis que son âme est tout en feu. Donc, il s'agit là d'une sanction divine infligée aux hommes pour les punir de leur intempérance. Il dit, ah, si seulement Adam avait écouté les avertissements divins, bien nous dit, ben, les hommes n'auraient pas hérité de cette malédiction ancestrale. Et nous dit saint Augustin, les parties destinées à la génération auraient été mues, comme les autres membres, par le seul commandement de la volonté. Mais il a péché et il a emmené toute l'humanité dans les sortilèges d'un éros diabolique, démoniaque et incontrôlable. Donc, ce caractère spirituellement fautif de la panérectile, il faut le rappeler parce qu'il explique le rôle majeur qu'a joué l'Église dans le tribunal de l'impuissance. Tribunal de l'impuissance, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure avec l'histoire de Madeleine de la Chape, qui était très actif en France au XVIe et au XVIIe siècle. Et donc là, c'est un livre de l'historien Pierre Darmon qui m'a servi de base, qui s'appelle d'ailleurs « Le tribunal de l'impuissance »,« Virilité et défaillance dans l'ancienne France ». Et donc là, il nous montre dans ce livre intéressant que l'Église prend l'initiative, déclenche le processus de culpabilisation et s'impose comme médiateur idéologique. C'est très important parce que l'injonction à la virilité est une ordonnance divine. Même les clercs y sont soumis à leurs membres, alors même que leur membre est voué à l'inaction. Je vais revenir sur les clercs en conclusion. Donc, un époux doit honorer sa femme. Le cas échéant, il viole le sacrement du mariage. Et c'est intéressant de voir que l'institution matrimoniale s'accommode parfaitement de la désunion des cœurs. Hein, ce n'est pas le problème du mariage. En revanche, la désunion des corps est inacceptable. L'union des chairs, copula carnalis, doit se faire. Le mariage doit être consommé. Le devoir conjugal doit être accompli. Donc, ce tribunal de l'impuissance, il faut savoir qu'il était redoutable. Il y avait notamment une épreuve qui s'appelait l'épreuve du congrès et dans laquelle on pouvait demander à un homme, forcer un homme, de faire la preuve de la, je cite, « tension élastique de son membre », donc de sa capacité à dresser, devant 5 médecins et 5 matrones. Donc vous imaginez le contexte comme c'est favorable pour s'en montrer capable. Mais s'il s'en montrait incapable, eh bien il était déchu de son statut viril, calomnié, traité en sacrilège, voire en meurtrier. Et donc Pierre d'Armont en conclut que ces procès en impuissance ne révèlent rien d'autre que la terrible angoisse de castration dont souffrent les juges, qui s'érigent en pourfendeurs zélés de l'impuissant pour donner des gages de leur propre conformité aux normes sexuelles homologuées, c'est-à-dire de leur propre puissance. Donc là, l'action en justice prend la forme de ce qu'il appelle un sacrifice païen, donc au cours duquel le juge, c'est-à-dire le sacrificateur, va se décharger de ses névroses sur ses victimes, le tout dans une atmosphère de grande kermesse voyeuriste. Donc, honte à l'impuissant, hein, parce que c'est un être qui, c'est pas un petit problème organique, c'est vraiment un être malfaisant, lâche, pusillanime, alors qu'évidemment les puissants, eux, sont considérés comme bienfaisants, courageux et énergiques. Donc c'est aussi à cette époque-là qu'on voit apparaître la braguette, cette mode de la braguette copieusement rembourrée, assortie de pierres précieuses, de rubans, dans laquelle parfois les gentilshommes cachaient des sucreries à offrir toutes chaudes à leur, je n'invente rien, hein, alors il y a un livre d'ailleurs sur la braguette, Colette Gouvion et Khadija Aglan. Braguette, une histoire des mœurs et du vêtement. Très intéressant. Donc, on va voir aussi la littérature, hein, qui nous parle de... Enfin, il y a un engouement littéraire pour les scènes de fiasco. Il y a chez Stendhal, il y a Armance, il y a l'épisode du Téton borgne de Giulietta. C'est pas à des grands lettrés comme vous que je vais le rappeler. Chez Montaigne, l'obsession du membre inobédient. Et puis, évidemment, on va voir fleurir toutes sortes de traitements pour remédier au dysfonctionnement. Donc, en matière d'aphrodisiaque, on a des croyances aussi diverses que fantaisistes, hein. On sait que les Chinois ils préconisent le bouillon d'hippocampe, la corne de rhinocéros. Ross, les Européens s'injectaient un composé de testicules de chien ou de cochon d'Inde quand ils ne recouraient pas carrément à la xénotransplantation en se faisant greffer des testicules de chimpanzés, de boucs ou encore de babouins. Des superstitions comme les Romains qui en venaient parfois à manger leurs excréments, les Élisabéthains à uriner à travers l'alliance de leur épouse ou même dans la serrure de l'église le jour du mariage. Vous voyez à quel point ça rendait fou. Et au 19e, c'est la médecine qui va s'emparer de la question de l'érection et qui va mettre au point toutes sortes d'appareillages orthopédiques très élaborés en prescrivant aux malades, considérés comme malades, donc des lits électriques, des vapeurs chaudes, des règles diététiques, etc. Et puis au 20e siècle, on sait qu'il y a des nouveaux traitements hormonaux et toute une pharmacopée aphrodisiaque, jusqu'à l'invention du Viagra, qui est le médicament le plus commercialisé de l'histoire pour ses propriétés de dilatation des vaisseaux sanguins péniens. Donc ça révèle à quel point c'est une angoisse majeure. Vous avez peut-être lu le beau roman de Romain Gary, Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. On sait qu'il n'y a rien de plus douloureux que le deuil de phallus, puisque si l'homme y a placé le centre de son être, eh bien, ça le rend effectivement, évidemment, très vulnérable. Alors, ce n'est pas tout, hein, s'il faut prouver et dresser, eh bien, il faut aussi entrer. Mais là, ce serait trop simple d'en déduire qu'il suffit d'entrer, parce que ce qui est important moralement, c'est ce qu'on fait de cette érection et du chemin qu'on va emprunter pour mener cette tumescence à la détumescence. Autrement dit, que le sexe s'érige, c'est bien, mais ce qui est vraiment la vraie question morale, c'est comment et où il se vide. Et là, on va voir que cette exigence de pénétration est elle aussi une source d'injonction extrêmement coercitive, mais aussi paradoxale. Donc, il faut, une fois dressé, que l'homme entre dans un autre corps, mais pas n'importe qui, n'importe comment, et il y a évidemment une pénétration licite et une pénétration illicite. Et c'est ce qui me fait dire que ce devoir d'intromission renvoie qui renvoie donc à la soumission d'un autre corps, va apporter un éclairage particulièrement cru sur deux phénomènes. D'abord, l'horreur de la masturbation et deuxièmement, le mépris pour l'homosexuel. Je vois que le temps passe. En fait, j'ai jusqu'à quelle heure? Juste
15 minutes.
Ah, bon, d'aller à l'essentiel. D'abord, donc, l'interdit de la masturbation. Ça prouve à quel point cette injonction à la puissance est difficilement compatible avec l'injonction à la maîtrise. Bon, alors, donc... alors, rappelons d'abord que, déjà, rien que le mot masturbation est en soi péjoratif, puisqu'il est formé à partir de manus, la main, et de stupratio, qui veut dire souiller. Donc, manus stupratio apparaît pour la première fois sous la plume de Montaigne dans l'Apologie de Raymond Sebond. Et il faut juste rappeler que ce geste n'a pas toujours été dévalorisé, parce que chez les Grecs et les Romains, ils le jugeaient peut-être peu viril, mais en tout cas, tant qu'on le faisait en privé, ça ne posait pas de problème. Ce qui a été reproché à Diogène le Cynique, c'est pas tellement de s'être livré à l'auto-érotisme que de l'avoir fait publiquement. Il disait si seulement on pouvait chasser la faim en se frottant l'estomac. Mais c'est ce passage de la Genèse sur le crime d'Onan, le second fils de Judas, qui va entraîner cette condamnation morale. Donc je n'ai pas le temps de rappeler l'épisode du deuxième fils de Judas, Er, mais en réalité, il y a quand même toute une interrogation sur la question de savoir si ce qui est condamné, c'est le fait d'avoir versé à terre ou donc de s'être livré à... l'auto-érotisme, donc de s'être satisfait manuellement, d'avoir recherché le plaisir solitaire, ou plus simplement de s'être livré à un coït non fécondant, c'est-à-dire la dimension de la contraception. Et donc, effectivement, au départ, les théologiens ont dit que il s'agissait de essentiellement... j'ai du mal à résumer. Donc, en fait... si on inscrit la faute d'Onan dans le registre du coitus interruptus, on déplace la faute, on ne la dégage pas complètement de la culpabilité du plaisir, mais on la recentre sur la culpabilité de la contraception. Et c'est à partir des Lumières qu'on va voir qu'il va y avoir la masturbation va devenir véritablement une névrose obsessionnelle généralisée, un traumatisme collectif. Et donc, ce que va inventer la modernité du 19e, c'est que la masturbation n'est pas seulement un crime religieux, parce que ce péché de mollesse, il pouvait être d'abord expiable pour le croyant, et puis il était complètement indifférent à l'athée, mais au 19e siècle, ce qu'on invente, c'est que c'est un suicide physique. Et là, il y a notamment un livre qui s'appelle Onania, d'un charlatan londonien qui a décrit le sous-titre de son livre, Onania, ou l'odieux péché de la masturbation et toutes ses conséquences affreuses pour les deux sexes, qui aura un retentissement absolument gigantesque jusqu'à l'apparition de l'ouvrage de... de Samuel Tissot, pardon, le médecin suisse Samuel Tissot, qui sont traités sur l'onanisme, dissertation physique sur les maladies physiques produites par la masturbation. Et donc là, il nous décrit quelque chose d'absolument apocalyptique, donc des excroissances charnues, des pustules suppurantes, et donc il nous explique que ce geste funeste, ça revient tout le temps dans ce texte, est accusé de tous les maux, altérer les fonctions organiques, tarir les humeurs, dessécher les corps, corrompre l'âme, les pires infirmités, la dépression, la surdité, l'anémie, la folie, la paralysie, etc., etc. Et donc, on va voir que la panique de ce qu'on appelle la spermatorée va bientôt gagner les philosophes. L'encyclopédie va rajouter un article intitulé « Manus stupratio ». Rousseau va critiquer. Voltaire, même qui réside à Lausanne, la ville de Samuel Tissot, va rajouter une entrée Onan à son dictionnaire philosophique. Et tous décrivent quelque chose d'absolument ravageur pour la santé. Il faut savoir que à ce moment-là, on rentre dans une véritable croisade anti-masturbatoire. qui implique une surveillance extrêmement étroite des jeunes garçons et une répression très très sévère. Donc à l'époque, les garçons sont souvent en internat et on les surveille du soir au matin, avec en plus des latrines dont on découpe le haut et le bas pour surveiller ce qui s'y passe. On les reconnaît à leur odeur de stupre, dit-on, et ils sont véritablement traqués et pieds surveillés. Et voilà. Et s'ils sont soupçonnés de se livrer à des actes honteux, eh bien, d'autopollution, ils sont renvoyés à leur famille. Et là, je ne peux pas résister à vous lire ce qu'on leur fait quand ils sont rendus à leur famille. On veille à ce que le garçon ne se couche jamais sur le dos. On lui fait prendre 3 bains gelés par jour. On le lave au vinaigre et à l'eau de goudron. On lui applique sur les parties honteuses de la neige pilée et du sel. On lui fait des bandages. On lui glisse sur le pénis un anneau garni de picots qui provoque de vives douleurs à chaque érection. On lui enferme le sexe dans une cage à serrure. On y injecte du potassium et de l'hydrate de chloral. On essaye sur lui les nouvelles ceintures électrifiées, les harnais, les alarmes. On lui enduit le périnée de cataplasme de ciguë. On y place des ventouses ou des sangsues pour en extraire le sang. On lui enfonce dans le rectum des œufs de métal ou de caoutchouc afin de masser la prostate, etc. On lui met les mains dans des mitaines de fer et bien sûr, on le fouette, etc. etc. Donc c'est absolument apocalyptique et jamais le dispositif nommé biopouvoir par Foucault n'a à ce point surveillé, pénétré les corps. C'est, comme il le dit, l'archipel punitif généralisé dans ce siècle économe et puritain. Et puritain qu'est le 19e. Donc c'est intéressant de voir comment on passe du pécheur, du crime donnant, au malade. Hein. Et donc c'est aussi un glissement qui s'opère au 19e siècle entre une vision théologique du monde et une vision positiviste du monde. Alors, cette injonction à la pénétration, je me dépêche, mais je voudrais quand même rappeler ça explique aussi la stigmatisation de l'homosexuel, mais ce qui est important, c'est de voir que la virilité exige la pénétration, mais c'est surtout bien la pénétration qui fait la virilité, quel que soit le genre du corps pénétré. Et en fait, j'ai trouvé absolument fascinant, en me plongeant dans l'histoire de la sexualité, de comprendre que, en fait, sodomiser un individu mâle n'est pas dévirilisant, au contraire même. C'est dans certains cas le contraire. Dans la Grèce et la Rome antique, ce qui est stigmatisé, c'est d'être pénétré. Donc la pénétration dite passive, dans les races et les romaines, on sait que c'est le plus vieux qui doit absolument posséder l'autre. Et ça n'a rien de dévirilisant. Il y a même un rapport très intéressant de Human Rights Watch portant sur le tabou du viol carcéral qui m'avait fascinée parce que révélant que les violeurs n'étaient absolument pas étaient des hétérosexuels convaincus, affichés hors les murs avec les affiches de femmes au gros sein dans la cellule, etc., des femmes et des enfants ailleurs, à l'extérieur, donc, et que les vrais homosexuels sont rarement prédateurs en plus. Et donc, ils violent d'autres par simple volonté de domination, en réalité, des victimes qui sont simplement soupçonnées d'être homosexuelles en fonction d'une voix, d'un peu d'appétit pour la bagarre, d'une voix un peu trop perchée, d'une corpulence un peu plus faible, etc. Donc, on voit ici le lien entre ce phallos, donc cette idée de sexe symbole de pouvoir, et ça a... Si j'avais eu plus de temps, j'aurais rappelé à quel point cette distinction entre l'homosexualité et l'hétérosexualité était arbitraire, construite, et que peut-être la frontière est assez poreuse entre les deux. Mais j'avance, puisque j'ai encore... C'est terrible, parce que je pensais avoir une heure et... Alors, donc, mouillé, hein, il faut en arriver là. Et mouillé, c'est intéressant parce que il y a l'art du bien jouir. On ne jouit pas n'importe comment. Et là encore, on voit qu'il y a des injonctions paradoxales parce qu'il faut à la fois se contenir et dépenser sans compter. Donc, c'est très compliqué. On a le médecin galien qui nous explique qu'un coït trop fréquent énerve. Et qu'il faut donc garder cette précieuse semence. Il y a toutes sortes de procédés pour limiter la production spermatiques, comme le séchage, la diète, les plaques de bronze, etc. Parce que très longtemps, dans la médecine et la biologie européenne, on a cette idée qu'il faut contenir. Il faut contenir ses larmes, il faut contenir son sperme, à la différence de la femme, comme je l'ai dit, qui, elle, pleure et perd son sang, etc. Et donc, il y a un devoir de rétention qui s'impose dans toute l'Europe médiévale et moderne. Et donc, au 19e siècle, là encore, siècle économe et puritain, il y a une très stricte discipline sexuelle. Donc, ne pas trop verser. Mais on va voir qu'il y a aussi une inversion inverse à la dépense et une fascination pour ce liquide précieux. Et il y a aussi un discours de glorification de l'éjaculation, puisqu'elle est le siège de l'audace, de la force, de la vigueur, de la générosité, du courage. Donc, on voit que le XVIIIe siècle, et notamment dans la littérature, n'en finit pas de mettre en scène ce qu'on appelle les fouteurs herculéens. Et donc, il y a cette idée que cette puissance humaine, cette puissance, cette scandale, enfin cette dilapidation est un signe de profusion, donc de richesse. Il y a un dernier point, je vais y arriver, un dernier point, c'est évidemment le crâné, donc la fanfaronnade masculine, et là c'est absolument décisif. Louis XIV s'évanouit un jour de fiasco parce qu'il dit oh, quelle horreur, c'était une dénommée Mademoiselle Dutronc, quelle horreur si elle va ébruiter ça et si la cour apprend que j'ai fait un fiasco. Donc, à défaut d'être toujours vigoureux, il faut du moins faire croire qu'on l'est. Et dans l'histoire de la virilité, moi, j'ai été très frappée par cette injonction presque à la fanfaronnade, à la vantardise, qui paraît presque une nécessité pour l'homme. Donc, cette assimilation entre le pouvoir et la prouesse sexuelle, donc dès le Moyen-Âge, dans au cabaret, la taverne, la caverne, on boit du vin, on doit exprimer dans une débauche verbale avec une masculinité de l'exploit physique, érotique, etc., avec beaucoup de galéjades sur les femmes. Et donc, dans tous ces lieux homosexués, aussi au 19e, ça va être la salle de garde, le caveau, la réunion politique, eh bien, il faut donc fanfaronner sur ces exploits sexuels et donc compter, le comptage est très important. On a déjà chez Olivier et Roland, dans la chanson de Roland, qu'on me décapite, j'y consens, je le jure, si je ne l'ai pas possédé 100 fois cette nuit. Donc il y a un comptage et qu'on retrouve dans toutes les correspondances des grands auteurs du 19e, notamment Flaubert, que je cite ici, je n'y résiste pas, à son ami Louis Bouillet à propos de son séjour à Beyrouth. Eh bien, j'ai foutu 3 femmes et tiré 4 coups aujourd'hui, dont 3 avant le déjeuner et un 4e après le dessert. Donc il y a cette obsession comptable, avec aussi une valorisation de la brutalité, avec des métaphores sexuelles qui renvoient souvent au registre des travaux de force et qui évoquent un peu la poigne et la rudesse virile. J'en cite quelques-unes: besogner, labourer, emmancher, enfiler, embrocher, crever la cloison, péter le cylindre, baiser à couillon rabattu, foutre tout en sang, entrer jusqu'à la garde. Hein, autant d'expressions qui signalent qu'on a affaire à un homme invrai. Évidemment, un mépris total pour le cocu, celui qui n'a pas réussi à satisfaire sa femme, à l'inverse, moqué. Je vous renvoie aux 49 façons d'être cocu de Charles Fourier, dont le cocu présomptif, le cocu porte-quenouille, le cocu goguenard, le cocu absorbé, le cocu propagandiste. C'est très, très amusant. Et donc, ça signale aussi honte à celui qui n'a pas fait de son sexe un outil de pouvoir. J'arrive enfin à ma conclusion. Est-ce que j'ai encore 2-3 minutes ? Je vais conclure en disant qu'en fait, bon, on le voit, ces injonctions sont extrêmement coercitives. Elles sont coercitives, mais elles sont aussi très discriminatoires, puisqu'on voit, elles visent à éliminer, à bannir, à conspuer tout celui qui n'est pas porteur des marqueurs et des attributs virils. Et puis, ça révèle aussi toute cette ambiguïté et cette articulation problématique entre maîtrise et puissance. Et on la voit aussi, et je termine là-dessus, sur une dernière injonction dont je n'ai pas encore parlé, et qui est l'injonction à la sublimation, et c'est toute cette ambiguïté du concept de maîtrise, c'est-à-dire que depuis Platon, la conscience européenne va se convaincre aussi de la supériorité morale, de la sublimation des désirs. En réalité, la façon aussi d'être un vrai homme, être un vrai homme, ça se prouve aussi dans la capacité de chacun à domestiquer, spiritualiser, sublimer la pulsion sexuelle. Et cette idée que seule l'ascèse ouvre la voie de la vérité, eh bien, c'est évidemment Platon, Socrate qui se refuse à Alcibiade alors qu'ils sont tous les deux amoureux et qui l'invite à transcender la pulsion sexuelle pour la réorienter vers des désirs plus élevés. Et on sait que le platonisme va avoir une influence énorme sur la morale sexuelle romaine puis chrétienne, qui vont toutes deux lutter contre la débauche de l'instinct. Et ce qui est très intéressant, c'est que on va voir que à Rome, par exemple, il y a ces injonctions à la puissance dont j'ai parlé. Il faut absolument pas être un mollis. Et en réalité, la pire insulte, on l'a vu, c'est d'être un mollis. Mais il y a aussi une autre insulte, c'est d'être un fouteur, c'est-à-dire de coucher trop. Et d'ailleurs, c'est une quelque chose qui vise César lui-même, dont on raconte sur le forum qu'il est le mari de toutes les femmes et donc la femme de toutes les maris. Ça veut dire qu'il a une sexualité débridée et c'est très dévalorisé. Il n'y a rien même de plus dévalorisant. Parce qu'un homme, un vrai, il doit faire preuve en même temps de puissance sexuelle et de modération sexuelle. Et ce qui est passionnant, je trouve, c'est de voir que pendant tout le Moyen-Âge, et c'est une interrogation qui est réactivée au 19e, on se demande vraiment qui est le plus viril, du moine ou du guerrier. Et donc, l'homme d'église, singulièrement l'évêque, qui est chaste, qui est lettré, il fait aussi figure de modèle d'excellence masculine et chrétienne, parce que ses ouailles sont invitées à imiter sa conduite. Il est continent, mais il est aussi un guerrier, parce qu'il combat le diable. Il est un soldat du Christ, hein, et donc il présente une virilité en quelque sorte alternative. J'insiste sur le fait qu'il doit absolument aussi prouver qu'il est équipé, parce que c'est l'équipement qui fait l'homme, comme on l'a vu. Et donc sa chasteté est un sacrifice. Donc vraiment, on s'est longtemps posé la question de cet homme d'église qui ne porte pas les armes, mais qui est considéré comme parfois plus viril, plus glorieux que le prêtre ou que le guerrier. Donc il triomphe. Qui est le plus viril? Celui qui triomphe au lit ou celui qui triomphe sur au lit et sur le champ de bataille, ou celui qui, sans armes, comme le moine, sacrifie sa vie érotique pour le salut de l'humanité? Et donc je pense que si cette question est longtemps restée indécidable, c'est qu'elle est révélatrice des interrogations, des incertitudes et des doutes qui, depuis ses origines, traversent le modèle viril, comme j'ai essayé de le montrer pour l'aspect juste de la sexualité. Et en fait, on voit que c'est un idéal viril qui a beau être ardemment revendiqué, eh bien, c'est quand même un idéal qui est très instable et qui est soumis à de permanentes évolutions, qui est fait d'un mélange de fascination et de rejet, dont le contenu va évoluer avec les mœurs, avec les modes, et qui est toujours sans arrêt soumis à des contestations. Il y a sans arrêt de nouveaux archétypes masculins. Tantôt, c'est l'apologie des lois du cœur et de l'esprit par opposition au culte de la force. Et cette apologie, elle est tantôt le fait du prêtre, elle est tantôt celle du poète courtois, voire parfois la marque emblématique du prince. Ce qui nous invite à penser que la notion même de virilité a toujours été critique et qu'elle s'est toujours déconstruite à mesure qu'elle se construisait. Je vais m'arrêter là parce que je veux respecter les horaires, mais simplement pour vous dire que j'ai vraiment hâte d'entendre mes consoeurs, mes confrères. Je ne sais pas si je tiendrai jusqu'à Mélanie qui va clôturer, Mélanie Gourarier, qui nous parlera de la crise de la virilité. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de vous entendre et d'en apprendre encore parce que c'est un sujet inépuisable, sur cette construction littéraire et anthropologique de la virilité. Je vous remercie beaucoup de votre attention.